La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio-Orient est Guy Dugas, professeur des universités et directeur littéraire des éditions Alcalima à Alger. Vous dirigez également la collection Planète Libre chez CNRS Éditions. Bonjour.
Bonjour.
Alors Guy Dugas, vous avez consacré votre vie à la littérature du sud de la Méditerranée. Vous avez enseigné cette littérature, vous l'avez analysée. J'aimerais d'abord qu'on parle de vos activités d'éditeur. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter cette maison d'édition Alcalima et ensuite votre collection, Les Petits Inédits Maghrébins ?
Les éditions Alcalima sont une petite maison située à Alger, une toute petite structure, nous y sommes trois. Et je m'occupe essentiellement de la dimension francophone, avec plusieurs collections. Effectivement, j'y suis directeur littéraire, c'est-à-dire que je ne m'occupe pas seulement de cette collection de petits inédits maghrébins que j'ai constituée, mais également d'autres publications, et notamment d'un certain nombre de romans de jeunes auteurs du Maghreb.
Alors, il s'agit d'une collection de poches de textes inédits, découverts dans des fonds d'archives en France ou au Maghreb. Comment cette collection est-elle née? Dans quel état d'esprit l'avez-vous créée?
Nous sommes partis du constat, du double constat finalement, qu'il existe quantité de fonds d'archives inexploités, souvent mal conservés d'ailleurs, ici ou là, sur une rive ou sur l'autre de la Méditerranée. Ça, c'était le premier constat. Et le deuxième constat, qui est plus général et en même temps plus particulier au Maghreb, aux relations entre le Maghreb et la France, c'est que la littérature a aussi un rôle à jouer dans ce travail de mémoire dont on parle tant actuellement. Et que si les archives historiques peuvent poser quantité de problèmes, les archives littéraires sont au contraire un trait d'union entre nos deux pays. L'exemple type, c'est évidemment l'œuvre de Jean Sénac, mais aussi celle de Rabah Ben Amri, mais aussi celle de Kateb Yassine, qui sont des écrivains à cheval sur une rive et l'autre de la Méditerranée.
Ça peut être des textes autobiographiques, ça peut être des poèmes, ça peut être aussi des extraits de correspondances littéraires.
Voire des pièces de théâtre également. Nous avons publié une pièce de théâtre inédite de Mohamed Dib, par exemple. Tout texte que les ayants droit veulent bien mettre à notre disposition.
Alors j'ai la chance d'avoir entre les mains un texte de Rabah Ben Amri intitulé « Amel », suivi d'un autre texte appelé « La falaise », présenté par son éditeur René de Secati. Si on prend l'exemple de Rabah Ben Amri, il est décédé en 1995. Son épouse Yvonne Ben Amri a ensuite continué à entretenir sa mémoire et a fait connaître son œuvre, mais elle est décédée également. Je crois que c'est un des frères de Rabah Ben Amri,
Bachir Ben Amri,
qui aujourd'hui s'occupe de son œuvre. Comment on publie un inédit de Rabah Ben Amri, l'auteur de Regards blessés? Il faut quand même dire à nos auditeurs qu'il faut lire toute son œuvre.
Oui, bien justement, c'est un cas tout à fait exemplaire, celui de Rabah, parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, après son décès brutal, prématuré, Yvonne a continué son œuvre, mais évidemment, nul n'est immortel, et Yvonne n'est plus là également. Et donc, c'est Bachir qui se retrouve dans un petit village d'Algérie avec ses archives. Il est important que la mémoire des écrivains ne disparaisse pas après leur propre disparition et puis la disparition de ceux qui tentent de les faire vivre, comme l'a fait Yvonne. C'est un peu ce qui se passait malheureusement pour Rabah. Ces dernières années, il est un peu tombé au purgatoire, que ce soit en Algérie ou que ce soit en France. Donc il était important que ressurgisse sa mémoire et c'est pour ça que nous avons republié également certaines de ses œuvres qui avaient été publiées chez Publisud, je crois, dans les années 80-90. Notre action a également pour but d'aider, autant que faire se peut, ses ayants droit à organiser ses archives et à les valoriser.
Une œuvre, si elle n'est pas diffusée, si elle n'est pas publiée, n'existe plus.
Voilà,
on ne peut plus trouver les livres.
Ça, c'est un aspect. Mais il y en a également un autre, ça va plus loin, et notre action tente d'aller plus loin. Nous l'avons montré notamment avec le groupe Manuscrits Francophones par l'appui logistique que nous avons donné aux ayants droit de Feraoun, son fils, Ali Feraoun, en donnant des classeurs, des éléments de conservation, également des méthodes de conservation.
J'aimerais qu'on parle aussi d'une autre collection que vous dirigez cette fois aux éditions du CNRS. Il s'agit de faire connaître des œuvres déjà publiées, un peu comme le fait la Pléiade.
C'est en quelque sorte la grande sœur de cette petite collection Petits Inédits Maghrébins. Les Inédits Maghrébins, j'ai voulu qu'ils soient en poche, de façon à ce qu'ils puissent facilement circuler. Il est extrêmement difficile de circuler d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Il est malgré tout important que ces volumes circulent. La littérature n'est rien si elle ne circule pas. La littérature, c'est un partage. Un partage d'idées, un partage d'écrits, un partage de sentiments. J'ai pensé que le format de poche était le mieux adapté pour faire circuler ces ouvrages. Il n'est pas difficile d'en passer par 20 ou 30 exemplaires par envoi ou en les confiant à quelqu'un. Alors que les volumes de la collection Planète Libre, qui est cette collection rattachée aux manuscrits francophones de l'ITEM, est autrement volumineuse, ce sont des ouvrages qui font tous plus de 1000 pages et qui ont la volonté, comme la Pléiade chez Gallimard, de constituer l'œuvre des classiques de la francophonie à partir des manuscrits là aussi. Retour aux archives, retour aux manuscrits et constitution avec une volonté génétique, c'est-à-dire montrer à partir des brouillons comment l'œuvre se génère d'un brouillon à l'autre et jusqu'à sa publication, et également une dimension critique, c'est-à-dire comment cette œuvre s'installe dans son siècle, dans son époque, à travers les réseaux qu'elle touche, ici ou là.
Et on peut citer quelques-uns des auteurs francophones publiés dans cette collection Planète Libre. Albert Memmi, bien sûr, que vous connaissez bien, que vous avez souvent publié, Sonny Laboutancy, oui. Aimé Césaire.
Oui, oui, bientôt René Maran, Léopold Sédar Senghor, la poésie, parliez d'Albert Memmi. En général, l'œuvre d'Albert Memmi, qui est bifide, il y a l'œuvre de romancier, et puis il y a un certain nombre de portraits. On connaît bien évidemment son portrait du colonisé, portrait du colonisateur, mais il y a aussi portrait d'un juif, la libération du juif, esquisse pour un portrait du dépendant, etc. Ce que j'ai voulu faire, c'est justement constituer autour de cette idée de portrait qui n'avait jamais été abordée, cette œuvre d'Albert Memmi, réunir sous l'angle du portrait. Et donc l'ouvrage, qui fait quelque chose comme 1300 pages, repartant des brouillons, et j'ai eu la chance de le publier du vivant d'Albert Memmi, ce volume-là repart des archives de Memmi lui-même, et on voit très bien comment s'est constitué non seulement tel ou tel des portraits, mais l'idée du portrait en lui-même, comment il a généré ce genre du portrait.
Guy Dugas, vous avez commencé à nous parler du groupe Manuscrits Francophones. De quoi s'agit-il précisément ?
Alors, le groupe Manuscrits Francophones a été constitué par Pierre-Marc de Biasi et Daniel Delas, un grand spécialiste de littérature francophone africaine, malheureusement disparu récemment, au sein de l'ITEM, l'Institut des textes et manuscrits modernes, qui travaille déjà depuis très très longtemps sur des manuscrits d'auteurs reconnus. Il y a là les archives d'Aragon, il y a un travail formidable qui se fait sur Proust. Et donc, il manquait cette dimension concernant les auteurs francophones, comme si les auteurs francophones n'avaient pas fait de brouillon, comme s'il s'agissait d'une génération spontanée, comme s'ils ne correspondaient pas, parce qu'il y a un gros travail également sur les correspondances en tant que relations qu'elles peuvent avoir à l'œuvre elle-même, et comment se génère également une œuvre à travers le réseau des correspondances de son auteur. vous avez eu la gentillesse de le souligner, j'ai longtemps enseigné les littératures francophones, eh bien, on a eu longtemps le sentiment que ces littératures francophones, c'était une espèce de génération spontanée et qu'il n'y avait pas de contact. Or, justement, il y a des correspondances, il y a des archives, il y a des brouillons.
Vous avez d'ailleurs publié une correspondance il y a longtemps entre Jean Amrouche et André Gide.
Bien sûr, oui, entre autres.
Jean Amrouche, le frère de Taos Amrouche.
Voilà, par exemple, le volume Senghor nous amènera à travailler sur des correspondances entre Senghor et Memmi, par exemple. On ne sait pas qu'il y a eu une correspondance importante autour du concept d'africanité, ramené à celui de judéité qui était cher à Memmi.
Guy Dugas, vous connaissez particulièrement bien l'œuvre de Jean Sénac, qui était un poète algérien, né et mort assassiné en Algérie après l'indépendance. Il était également très connu pour les émissions de radio qu'il présentait. Il invitait de jeunes poètes à lire leurs poèmes. Il reste encore de nombreux inédits de Jean Sénac. Il y a une passion autour de son œuvre aujourd'hui.
Là aussi, il y a toute une part de revalorisation de l'œuvre de Jean Sénac. Alors un gros travail a déjà été fait, notamment par les éditions Actes Sud, en publiant en 1999 et puis republiant avec une préface de René Tsekati l'œuvre poétique de Jean Sénac, donc publiée en 1999 et republiée en 2019 en nouvelle version, parce que cette somme poétique était épuisée, ce qui est la preuve de cette passion dont vous parlez. Mais il y a encore quantité d'archives, et là aussi c'est très emblématique, quantité d'archives inexploitées, notamment ces carnets sur lesquels je suis en train de travailler actuellement, et tout son théâtre. On oublie généralement que c'est également un auteur de pièces de théâtre qui n'ont jamais été ni représentées, ni publiées. Cela se trouve dans des fonds d'archives extrêmement dispersés. Et ça aussi, c'est un de nos problèmes en ce qui concerne les écritures francophones. Et ça, c'est un exemple emblématique de ce problème-là, puisque le fonds Sénac est partagé, en gros, entre trois pôles. La Bibliothèque nationale d'Algérie, qui a hérité de tout ce qui s'est trouvé dans le domicile de Jean Sénac, la fameuse cave, après la disparition de Jean Sénac. Le fonds de la Bibliothèque de l'Alcazar, à Marseille, qui est ce que Jean de Maisonseul, un grand ami de Jean Sénac, a pu rapatrier en France de ce qu'il possédait, puisqu'il a pu récupérer lui-même. Et un troisième fonds que je viens de constituer, parce que j'ai moi-même constitué un fonds, c'est le seul en France, que j'appelle Fonds Patrimoine Méditerranéen, auprès de l'Université Montpellier III, qui était mon université où j'ai enseigné, terminé ma carrière d'enseignant et débuté celle d'étudiant. Dans ce fonds, j'ai hérité de toute la partie théâtrale des œuvres de Sénac, qui restent encore totalement à exploiter.
C'est un travail absolument passionnant que vous faites, Guy Dugas.
Oui, en tout cas, c'est un travail nécessaire. C'est un travail de fourmi aussi, qui quelquefois décourage les jeunes chercheurs, parce qu'il y a tout ce travail de bénédictin à faire, de déchiffrement des manuscrits. On a eu l'exemple sur l'œuvre de Dib également, dont tous les manuscrits se trouvent à la Bibliothèque nationale, ou pratiquement tous, à la Bibliothèque nationale ici à Paris. Eh bien, n'a pas encore été exploitée, cette œuvre, comme elle aurait dû, parce que nous n'arrivons pas à constituer une équipe de jeunes chercheurs algériens. Et l'idée, c'est toujours quand même de ramener un écrivain à son pays. Eh bien, nous ne sommes pas arrivés pour le moment à constituer une équipe de jeunes chercheurs algériens, en dépit de l'appui que nous avons de Habib Tengour et de Hervé Sanson, qui s'occupe de ce dossier-là au sein de Manuscrits francophones, à l'ITEM, sur Mohamed Dib. Mais nous ne désespérons pas, bien évidemment.
Alors, cette collection Petits Inédits Maghrébins publie notamment un inédit d'Albert Camus en Algérie. Alors, c'est toujours rare de lire un inédit de Camus qui est en Pléiade. Vous avez aussi publié Henri de Monterland, écrivain français mort dans les années 70, publié lui aussi en Pléiade, qui est un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui, et on s'aperçoit avec vous qu'il a voyagé au Maghreb dans les années 20.
Il a même pratiquement vécu 3 ans de sa vie au Maghreb.
Et puis, il y a des textes, par exemple, de Mohamed Khada et Anna Greki. Qui sont-ils?
Mohamed Khada, c'est un peintre plasticien et théoricien de la nouvelle peinture algérienne, également beaucoup valorisé, promu par Jean Sénat, qui a fait un gros travail, non seulement à la radio, vous l'avez dit, mais en générant des expositions, en promouvant un certain nombre de ses amis peintres, plasticiens, et notamment Rada et le groupe de la jeune peinture algérienne au moment de l'indépendance. Et Anna Greki est une poétesse algérienne également, morte malheureusement très très jeune et en pleine période de production de son œuvre, qui était très amie avec Rada et qui a élaboré des éléments pour la nouvelle peinture algérienne, un texte théorique que nous avons publié en petit inédit maghrébin.
Et de la même façon, vous publiez un inédit du poète Mostefa Lachraf et du peintre Ali Silem. Et ce qui est beau, si j'ai bien compris, c'est que l'idée d'un livre en commun avait été projetée alors que Mostefa Lachraf était vivant.
Oui, c'est cela. Il s'agit aussi de prolonger, évidemment, la volonté des créateurs eux-mêmes de relayer cela. Sénac avait projeté un certain nombre de choses, et notamment son grand roman Ébauche du Père, qui a ensuite été édité chez Gallimard par Abbé Benhamri. Vous voyez, tout cela se tient. C'est une sorte de toile d'araignée ou de puzzle que nous reconstituons très attentivement, très soigneusement. Mais ce roman-là n'a jamais été étudié sous la forme génétique dont nous allons proposer maintenant une remise à l'étude. Parce que quand on publie de manière posthume un inédit, il y a des choix, forcément, parmi ces brouillons. Rabat en a fait sur Ébauche du Père, comme sans doute Catherine Camus et l'équipe qui a travaillé sur Le Premier Homme ont fait des choix-là. Ce qui nous intéresse, nous, généticiens du texte, c'est de savoir pourquoi ces choix-là et pourquoi n'y aurait-il pas d'autres choix. Le débat a été lancé bien longtemps avant nous, au tout début du XXe siècle, lorsque Barucan a entrepris la publication des œuvres d'Isabelle Eberhardt, qui était elle-même à l'état de manuscrit complètement parcellaire, parce que certains avaient été retrouvés dans le lit de l'Oued où elle s'est noyée, d'autres avaient été retrouvés à Bonn, à Annaba, dans la famille de son époux. Tout cela a été reconstitué d'abord par Barucan, ensuite par Vigny d'Octon. On s'est aperçu ensuite que c'était un faux. Et vous voyez comment, à partir de brouillons, on peut élaborer des œuvres différentes jusqu'à de nouvelles œuvres, des faux. Et puis le troisième qui a reconstitué l'œuvre d'Isabelle Eberhardt, c'est René-Louis Doyon. Barucan a commencé à travailler dès la mort d'Isabelle Eberhardt en 1903, et René-Louis Doyon a travaillé en 1930 ou 1935 sur cette œuvre-là. Vous voyez, donc ça fait une amplitude d'un tiers de siècle. Alors que les archives d'Isabelle Eberhardt se trouvent aux archives d'Outre-mer à Aix-en-Provence, il est possible, et je l'ai fait faire en thèse, de reconstituer d'autres textes à partir de sudoranais, à partir de ce qui a été publié par Barucan ou René-Louis Doyon, mais en repartant des brouillons, cette fois-ci. Parce qu'il y a chaque fois des choix.
Merci Guy Dugas, on aurait aimé prolonger cette discussion.
Mais on pourra le faire au sujet d'autres ouvrages.
On le fera au sujet des ouvrages que vous publierez dans ces deux belles collections. Petits inédits maghrébins, publiés donc aux éditions El Kalima à Alger.
Voilà, mais qui peut se trouver en France assez facilement auprès de l'association ASPAM, ASPAME, 250 rue Paul Valéry, 34400 Lunel.
Le message est passé. Et puis il y a cette autre collection, Planète Libre, chez CNRS Éditions. Merci Guy Dugas d'avoir été l'invité de la bibliothèque de Radio Orient.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.